Interview.
1 du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi dans le studio, Jean-Michel Delvigne, restaurateur à Paris, et Luc Boussard, un ami de Jean-Michel. Alors je précise, Jean-Michel Delvigne était là à la première réunion de la création de RDWA et justement il était intéressé de s'exprimer en tant que soutien à RDWA de la première heure. Et puis parce qu'il aime beaucoup le DIY, il vient souvent dans le DIY. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices.
Et auditrices, bien sûr. Alors Jean-Michel, tu as souhaité t'exprimer sur des choses et d'autres, sur ton ressenti sur le DIY, sur la radio, sur moult sujets. Comment vas-tu et commence par bien ce que tu veux.
Bah, je vais très bien. Quand je viens dans le DIY, bah, je vais encore mieux. Parce que c'est une région que j'aime beaucoup et qui me rappelle une région où j'aurais aimé vivre, mais bon, maintenant je suis un peu trop âgé, c'est-à-dire le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Ah. C'est un peu original, mais c'est vrai que j'ai voyagé là-bas et quand j'ai découvert le DIY, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait beaucoup à ce que je ressentais là-bas.
C'est pas plus sec là-bas ?
Non, pas forcément, parce qu'il y a des zones sèches et il y a le sud, mais il y a des zones aussi montagneuses, avec des forêts, il y a même des stations de ski. Hein. La petite ville que j'ai beaucoup aimée au Nouveau-Mexique, c'est Taos, et je trouve que Die ressemble un peu à Taos, par la population qui y est. Taos est une ville, rester dans l'esprit des années 70, et je trouve qu'à Die, il y a quelque chose qui se dégage un peu de cela. Voilà. Donc, j'ai découvert le DIY par une amie, dont les parents habitent à la Bâtie-des-Fonds, aux sources de la Drôme, et je suis venu, j'ai vu. La première fois que je suis arrivé, c'était en novembre, il pleuvait, je me suis dit, oh là là, c'est sinistre cet endroit. Et puis j'ai décidé quand même de persévérer, j'ai pris une carte et j'ai dit tiens, je vais aller là, c'est des noms qui m'inspiraient. Et puis au bout d'une semaine, j'ai trouvé que j'étais bien ici. Donc j'ai décidé de revenir régulièrement et depuis, ça fait 4-5 ans maintenant, je viens une semaine par mois où je fais des achats auprès des producteurs locaux que je ramène à Paris et que je vends dans mon restaurant bio-végétarien.
Qu'est-ce que tu trouves sympa dans le DIY ? C'est plutôt le côté alternatif ou c'est plutôt la nature ?
Bah, c'est l'ensemble. Bon, la nature me touche, hein, c'est sûr. J'aime le côté sauvage de la région. Et puis c'est beau, quoi. Il n'y a qu'à ouvrir ses yeux et puis sans rien faire, c'est beau, on est bien. Quant à le côté alternatif, bah disons, moi j'ai vécu les années 70 aussi en tant qu'alternatif. Et je trouve qu'il y a un esprit ici qui me ramène à ça. Un esprit, je dirais, entre guillemets, contestataire, d'un système un peu castrateur. Et ici, on y trouve une espèce d'esprit de liberté, de créativité qu'on ne trouve pas beaucoup dans beaucoup d'endroits.
De tolérance aussi.
De tolérance, oui, bien sûr. Qu'on ne trouve pas dans beaucoup d'endroits. Les gens ont des visages, je ne sais pas, je trouve que les gens sont beaux, tout simplement.
Pour en revenir à ton restaurant, où se trouve-t-il alors ?
Alors, mon restaurant se trouve dans le 13e arrondissement à Paris, donc j'y suis depuis 14 ans. Et bah, si, dans ma clientèle, j'ai une clientèle qui correspond un peu à un certain nombre de personnes qui vivent dans le DIY. Mais disons qu'à Paris, ils sont beaucoup plus fatigués, parce que Paris, c'est quand même une ville très stressante, alors qu'ici, je trouve que les gens sont détendus. Ça se voit sur leur visage, d'ailleurs. Que ce soit à Paris ou à Die, on a tous chacun nos problèmes à résoudre. Mais ici, c'est beaucoup plus apaisé, je dirais.
Alors, comment s'appelle-t-il et pourrais-tu faire une offre aux DIY qui sont de passage à Paris, quand même ? Ce serait un peu normal.
Oui, bah, le restaurant s'appelle La Bonheur. C'est 72 rue du Moulin des Prés au métro Tolbiac. Et les DIY qui sont de passage à Paris, on leur offrira l'apéritif, tout simplement.
Surtout s'ils présentent une carte d'adhésion de RDIY.
Absolument.
Alors là, ils ont un double apéritif.
Ils auront le...
Le digestif.
ils auront l'apéritif et puis un thé ou un café ou ce qu'ils souhaitent.
Hein, vous avez bien entendu ça, cher auditeur, ça vaut le coup d'écouter Erdiwa quand même. Hein, surtout si vous fréquentez assidûment Paris aussi.
Voilà. Oui, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient l'aller-retour entre Paris et Die, que Die est une ville, la Drôme est très appréciée à Paris. Beaucoup de gens, surtout dans le monde un peu que je côtoie, beaucoup de gens connaissent la Drôme et notamment le Diois.
Et qu'est-ce qu'ils leur trouvent alors justement? C'est deux côtés, sauvage et liberté?
Oui, voilà, c'est ça. C'est le mot liberté, c'est vraiment le mot qui correspond tout à fait à ce que je ressens ici. Liberté, créativité aussi.
Oui, pour revenir à l'Arizona, est-ce qu'on peut dire, si on suit ta pensée, que les Diwa sont des Indiens, comme en Arizona ou au Nouveau-Mexique?
Avec une plume dans le...
les Diwa sont des Indiens, je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là, parce que les Indiens d'Arizona, c'est surtout les Navajos, qui sont des gens qui ont bien géré leur autonomie, leur réserve. Ici, et qui ont tout pouvoir sur toutes leurs réserves, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois producteurs, hôteliers, propriétaires de McDo, donc ils sont autonomes. C'est un des rares peuples qui a toute cette autonomie. Ici, je dirais que ce sont des Indiens par l'esprit, mais pas par la vie quotidienne, encore que je ne connais pas vraiment la vie de tous les Diwa.
On a un certain nombre de babacools qui sont assez symptomatiques quand même.
Oui, mais je ne connais pas beaucoup de monde en fait, tout compte fait. J'ai des amis, je fréquente dans le Diwa un certain nombre de personnes que je connais depuis assez longtemps d'ailleurs, mais comme mes séjours sont courts, je n'ai pas toujours l'occasion d'aller plus loin dans la découverte du peuple indien du Diwa.
Mais pour revenir au Navajo, je crois savoir, Louis doit le savoir mieux que moi, il y a eu un groupe de Navajo qui est venu en visite à Die et qui a complètement flashé sur le pays et qui a fait la même réflexion que toi, que ça leur fait penser à leur terre natale, à leur territoire.
Absolument. Et d'ailleurs, j'ai une affiche qui représente au restaurant la transhumance. Et c'est à cette occasion que des Navajos sont venus. Et en fait, on y retrouve un peu l'esprit des Navajos, c'est-à-dire vivre dans l'harmonie et la beauté.
Mais est-ce que c'est pas un peu du folklore tout ça? Nous, on serait un peu étiqueté, nous, en tant que Diwa, un espèce de peuple étrange, un
archaïque.
Peu en dehors, archaïque, en voie de disparition.
Non, pas du tout, parce que dans le Diwa, il y a donc, entre guillemets, ces Indiens par l'esprit, mais il y a aussi toute une population locale qui existe depuis très longtemps et... C'est un mélange en fait, c'est pas une réserve le Diwa. C'est pas vraiment une réserve, je dirais que c'est au contraire, c'est un lieu je reviens toujours à la créativité parce que je vois qu'il y a beaucoup d'activités. Et c'est un lieu où les gens ont quand même un grand respect de la nature puisque c'est une des régions les plus bio de France. Ils aiment la nature, donc de par ce fait, ils sont proches effectivement des peuples indiens qui ont un grand respect de la nature. Voilà, mais non, c'est pas une réserve ici. Je dirais plutôt que c'est un lieu de créativité, d'expérience. Mmh. Expérience en tout genre, alternative, et c'est un lieu pour ça très intéressant.
On peut même y faire des affaires.
Alors on peut même y faire des affaires, puisque de toute façon, même les Indiens font des affaires, hein, faut pas rêver.
Faut bien croûter.
Faut bien croûter, et effectivement, justement, à partir de là, moi j'avais envie de m'y installer, d'ouvrir un restaurant comme j'avais à Paris. Bon, après avoir étudié un peu le contexte, je me suis dit qu'à l'âge où j'ai 62 ans maintenant, c'était repartir dans une aventure un peu lourde et peut-être fatigante. Hein. Mais je ne désespère pas, si je viens vraiment m'installer dans le Diwa, de créer quelque chose. J'ai quelques idées et peut-être d'installer une petite entreprise. Je ne sais pas encore, mais voilà, ça fait partie de mes projets.
Alors tu as dit tout à l'heure que tu importais des produits Diwa qui sont servis à ton restaurant. Alors est-ce que tu peux être un peu plus précis?
Bah, disons, à la base, il y a la clairette, bien sûr, il y a les ravioles, je fais fabriquer des ravioles, mais c'est pas uniquement pour mon restaurant, puisque dans mon restaurant, j'avais deux collaboratrices qui sont devenues maintenant restauratrices, qui font aussi du bio, végétarien, et en fait, je ramène de la marchandise pour 3 restaurants, ce qui fait quand même une camionnette pleine tous les mois. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on ne voit pas beaucoup... Je ne sais pas s'il y a une maison de la Drôme à Paris ou une maison du Diwa. C'est un peu dommage parce que les régions ont tout intérêt à développer des liens avec les grandes villes, parce que c'est comme ça, hein, la société est ainsi faite, pour pouvoir justement y exporter, entre guillemets, des produits locaux. Parce que je vois, moi je vais faire des courses à la Carline, ils favorisent les produits locaux, ce qui je trouve normal, bien. Mais à Paris, on a très peu de production, donc on est bien obligé d'importer. Alors pourquoi pas du Diwa ? Pourquoi pas ? Moi, je pense que, par exemple, je ne fais pas de promotion beaucoup des produits. Je le fais dans mon restaurant parce que c'est mon métier, je ne suis pas épicier. Mais je pense qu'il y aurait des produits qui pourraient très bien trouver leur place en quantité sur la région parisienne, avec ce label, la Drôme, département bio, enfin région bio, le Diwa, un état d'esprit... Tout ça, ça se met en forme et ça peut apporter une activité économique à la région.
Alors c'est une bonne idée et c'est normal que tu importes des produits du Diwa pour ton restaurant, mais en termes de circuit court, ça se pose là quand même.
Circuit court, ça dépend ce qu'on appelle circuit court. Je reviens au fait que les grandes cités n'ont pas de producteurs près de chez eux, donc de toute façon... pour moi, le Diwa, c'est quand même un circuit plus court que faire venir le bio de Sicile ou du Maroc. Hein, parce que, c'est quand même beaucoup plus court. En fait, ce que j'achète dans le Diwa, des ravioles, du vin, plutôt du côté de Nyons, vin sobre.
Du jus d'abricot.
Du jus d'abricot. Et d'ailleurs, je suis en rupture de jus d'abricot. Mon fournisseur, qui est lui aussi vers Nyons, n'a pas eu de récolte cette année. Donc, à partir de janvier, je vais rechercher un producteur de jus d'abricot bio pour me fournir... à peu près 2 à 300 bouteilles par an, quoi.
D'accord, à bon entendeur.
Voilà. Salut.
Alors, est-ce que tu as entendu parler, toi, en tant que Parisien, mais fréquentant quand même le Diwa, est-ce que tu as entendu parler de Biovallée ?
J'ai entendu parler de Biovallée, effectivement, j'ai entendu parler de Biovallée, où je crois qu'il y avait des financements possibles par la Communauté économique européenne. Sur des projets donc bio dans la Biovallée, mais j'en ai entendu parler, mais sans plus. C'est-à-dire que comme je n'avais pas l'intention pour le moment d'ouvrir une entreprise ou de créer quelque chose localement, j'ai pas vraiment insisté. J'ai pas fait les démarches pour aller chercher l'information.
Tu as entendu parler de Biovallée ici dans le Diwa ou à Paris ?
Dans le Diwa, ah non, pas à Paris.
Oui, à Paris, on parle pas de Biovallée quand même. Non, enfin, pas dans tes cercles.
Non. Non, on n'en parle pas. Non.
D'accord. Pourtant, c'est effectivement quelque chose qui fait que cette vallée de la Drôme a une certaine spécificité et continue à maintenir son avance dans le bio, par exemple, parce que tous les projets qui se montent dans cette vallée de la Drôme peuvent être estampillés s'ils respectent un certain cahier des charges bio, généralement, Biovallée.
Oui, mais c'est un joli nom, Biovallée, mais il faut le promouvoir et il faut avoir derrière, je veux dire, du répondant, c'est-à-dire de quoi proposer pour aller derrière cette belle image. Je sais qu'il y a de la clairette en bio. Je ne connais pas exactement toute la production locale, en fait.
Mais je parle en termes de produits, mais aussi en termes, par exemple, de construction de bâtiments, en termes d'économie d'énergie, d'initiatives citoyennes, en termes même de financement de la radio. Nous avons une émission qui est financée par Biovallée, et c'est essentiel qu'on l'ait, parce que ça nous fait un certain montant d'argent par mois.
Oui, non, mais je comprends, et c'est très bien. Disons que moi, de l'extérieur, je ne comprends pas bien ce qu'est Biovallée. Aujourd'hui, pour moi, ça reste un slogan, en fait.
Est-ce que tu écoutes de temps en temps RDW ? Alors, on va revenir un petit peu à ce sujet de conversation, parce que tu étais donc à la première réunion, je l'ai dit tout à l'heure. Parce que si d'aventure tu pouvais écouter RDW, tu m'as dit tout à l'heure hors micro que tu n'avais pas internet dans le Diwa, mais tu l'as peut-être à Paris.
Non, je ne l'ai pas à Paris.
Ah, tu es un réfractaire aux technologies numériques.
Je trouve qu'on vit dans un monde d'illusions et que là, c'est l'illusion de l'illusion. Mais ça, c'est mon point de vue.
Ah, mais
peut être très utile, hein. Je ne nie pas l'intérêt d'internet, mais...
Tu pourrais tout simplement écouter RDW en boucle, parce que c'est tellement bon que...
En boucle, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que tu peux appuyer sur un bouton, écouter RDW en direct de ton restaurant ou de ta maison. Ça, ce serait possible.
Tu crois qu'on capte RDW à Paris ?
Carrément, bien sûr que oui.
Oui, mais
on nous écoute jusqu'en Kyrgyzstan et en Ouzbékistan.
Sur Internet, pas en FM.
Mais c'est bien ce que je dis, d'Internet.
Oui. Disons que oui, pourquoi pas, si demain, parce que mon fils va reprendre le restaurant, et lui est beaucoup plus branché sur ce nouveau monde, hein, ces nouveaux nouvelles technologies. Donc peut-être qu'effectivement, on fera une partie de la journée. Après, il faut connaître vos programmes aussi.
Ouais, il y a une grille de programme, c'est très facile. D'accord. Non, mais je te parlais de cela, c'est parce que Zocazo, si d'aventure tu avais voulu te renseigner sur BioVallée, dans cette émission que nous faisons en collaboration avec Radio Saint-Ferréol, nous avons fait un certain nombre d'émissions explicatives de ce qu'est BioVallée et même d'émissions bilan. Où est-ce qu'on est BioVallée? Est-ce que justement c'est mieux perçu? Parce que c'est surtout ça le problème de BioVallée, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas forcément où est-ce qu'ils veulent en venir.
Oui, alors moi je vais vous dire, hein, j'ai des clients qui viennent de toute la France. En général, ce sont des gens qui mangent bio, bien sûr, ou qui, bon, ils ne sont pas forcément tous végétariens. Mais souvent, ils me disent « Ah bah nous, dans la région, on est le premier producteur de bio en France. Nous, dans telle région, on est les premiers producteurs de bio en France. » C'est assez fréquent. Il y a différentes régions, que ce soit le Languedoc, que ce soit d'autres régions. Ah oui, ils disent toujours cette chose-là. C'est assez marrant, d'ailleurs.
En tout cas, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas dire. Nous avons, dans le Diois, la seule vallée entièrement bio en France, c'est-à-dire la vallée de Saint-Julien-en-Quin.
Oui, d'accord.
100% des producteurs agricoles sont bio, par exemple. Donc cette vallée n'est pas polluée.
Elle est le mot BioVallée vient de cette vallée ou
Non. BioVallée, c'est toute la vallée de la Drôme. En fait, tout à l'heure, je rectifie un petit peu, tu as fait une petite erreur, c'est que c'est pas européen, c'est régional. C'est la région qui a donné, 5 à 6 millions d'euros aux 4 ou 5 communautés de communes de toute la vallée de la Drôme pour promouvoir le bio dans la vallée de la Drôme. Voilà.
D'accord.
Tu veux me dire quelque chose, Luc, j'ai l'impression?
Je ne sais pas s'il faut en parler, mais il y a des choses qu'on n'a pas précisées. C'est d'abord que Jean-Michel, ce n'est pas seulement un voyageur occasionnel dans la Drôme, il y a vécu 3 ans, à part entière, pratiquement à plein temps. Et puis, on n'a pas parlé non plus de l'expérience qu'il avait eue personnellement de la radio, puisqu'il a animé une radio dans les années 70.
Oui, ce qu'on appelait les radios pirates à l'époque, c'est-à-dire qu'on avait créé une radio sur Annecy, au moment de la contestation de Melville, du surgénérateur, et toutes les semaines, on faisait une émission sur l'évolution, sur ce qu'on savait de ce projet.
Sur vos luttes, quoi.
Sur les luttes, voilà, c'est ça. On faisait une émission. Alors, c'était beaucoup plus rudimentaire que vous. On enregistrait chez des amis, sur des petits magnétos. Et puis moi, avec mon véhicule, je branchais l'enregistrement sur mon allume-cigare et puis j'arrosais la vallée. Bon, enfin, c'était pas très bon. Et puis après, il y a les autorités qui nous ont fait comprendre qu'il fallait quand même qu'on se calme. Donc, on s'est arrêté sagement, quoi. Voilà, on n'était pas non plus des sauvages, entre guillemets. Et ce combat est arrivé à terme, mais on a quand même construit Melville, mais quand même, ils ont arrêté. Et ça a été de l'argent gaspillé, jeté par les fenêtres, comme dans bien des cas, dans notre beau pays centralisé. Et voilà, quoi.
Et c'est les bâtiments étaient démantelés depuis, ils sont toujours là?
Alors, je ne suis pas passé à Crest-Melville depuis des années et des années, puisque... Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait des bâtiments, mais c'était quand même un
monstre.
Et puis après, derrière, on a eu accès à des documents qui nous montraient que ceux qui avaient investi de l'argent, c'était pas non plus des enfants de cœur, quoi.
Bon. Si je peux me permettre d'orienter un petit peu les débats, parce qu'on va pas partir dans le nucléaire.
Non.
Nous sommes tous d'accord. Je pense que le nucléaire n'est pas forcément ce qu'on fait de mieux de nos jours.
Un euphémisme.
C'est un euphémisme. Et en parlant de ton expérience radio, alors petite séquence souvenir, est-ce que tu te rappelles des débuts de RDY? Est-ce que justement tu pourrais faire un petit retour?
Je me rappelle des débuts, l'expérience que j'ai vécue à cette réunion, c'est que j'ai vu des gens très motivés, carrés dans leurs propos, dans leurs projets. Je me suis posé la question que se pose tout responsable un peu d'entreprise ou d'association, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont trouver les financements pour monter à bien leur projet. Donc effectivement, apparemment, j'ai suivi par Luc, je questionne à chaque fois que je viens à Luc sur l'évolution de la radio, et puis effectivement, vous avez fait ce qu'il fallait, et maintenant vous avez un outil super, quoi. Alors après, dans la durée, est-ce que vous avez encore besoin de financement? Quel genre de financement? Quels sont vos projets? Bon, je ne les connais pas trop, mais je pense que c'est important qu'il y ait localement une radio de ce type, et puis même dans d'autres régions de France aussi, hein. Ça sort du discours des grandes radios, où, ma foi, on a en réalité pas vraiment d'accès à une information, entre guillemets, honnête.
Bah, l'avantage de RDWA, c'est que c'est local, quoi. À la limite, les spéculations, moi, c'est pas mon truc, hein. Ça doit être centré sur ce qui se passe ici. Donc, les gens qui viennent s'exprimer, c'est le plus de RDWA. On a réussi à donner un canal par lequel les gens qui souhaitent s'exprimer le peuvent. Faisant mentir la fameuse chanson de Jacques Dutronc, on nous cache tout, on nous dit rien. Ici, éventuellement, ça pourrait se savoir. Ce qui est très important dans les radios associatives, c'est qu'effectivement, il suffit de pousser la porte. Ça me fait du bien de le rappeler, il suffit de pousser la porte et les radios associatives locales ne vivent que parce qu'il y a des gens qui se sont dit « Tiens, cette radio n'est pas loin, elle est là, à proximité, je peux, si je veux m'exprimer, le faire. » Alors qu'effectivement, franchir la porte d'Europe 1 ou de je ne sais quoi, il y a des barrages, c'est plus distant quoi, c'est plus distant du citoyen.
Absolument. La preuve, moi je suis là à pouvoir dire ce que je ressens sur la région, sur le Diwa, sur les personnes qui y vivent. Voilà quoi, c'est en toute liberté d'ailleurs.
Non, t'as pas eu l'impression que je te formatais, que je te contraignais ?
Pas vraiment, non.
Si je peux me permettre, bah, dans l'expérience de la radio, pour laquelle tu le sais aussi, je suis passionné, il y a un aspect dont on a parlé, c'est les contenus. Je trouve que les contenus sont absolument remarquables. C'est pas du tout de la propagande, ce sont des contenus vivants, locaux, authentiques. Ça, c'est un aspect qu'il faut rappeler. Et il y a un deuxième aspect qui, moi, m'a beaucoup marqué, m'a beaucoup impressionné, c'est le mode de fonctionnement. C'est bien malheureusement la seule aventure humaine à laquelle j'ai participé où j'ai rencontré un véritable fonctionnement ouvert en démocratie directe, où chacun s'exprime, chacun est écouté. Et jusqu'à présent, j'ai toujours vu toutes les décisions prises au consensus. C'est que chacun fait un bout de chemin pour arriver à trouver une position commune. Et ça, moi je tiens à le souligner, pour moi en tout cas c'est quelque chose de vraiment exceptionnel et de vraiment exaltant. C'est la raison principale qui me fait aimer cette aventure et continuer à y participer.
Alors je me permets de resituer Luc, hein, qui est non seulement moine zen, mais notre ex-président, nous le regrettons encore un peu tous les jours, nous versons une petite larme. Bon, l'actuel président n'est pas mauvais non plus. Et tu as fait un certain nombre de contenus aussi.
Dire, oui, bien sûr.
Tu as fait quelques interviews, merci encore. Et Jean-Michel, outre la bonne bouffe, RDWA et le DIWA, qu'est-ce qui te passionne et qu'est-ce qui te bouge dans la vie en fait ?
Bah, la vie déjà. Je trouve que la vie est extraordinaire malgré toutes les difficultés. Que si on prend le temps de se poser, de regarder autour de soi, comme disent les Indiens, on peut vivre en harmonie dans la beauté malgré un contexte très difficile pour beaucoup. Ce qui me passionne dans la vie, bah, c'est déjà mon travail. Mon travail de restaurateur parce que j'aime ce que je fais et puis de former des jeunes aussi parce que c'est très important pour moi de transmettre un état d'esprit qui est basé sur le respect de l'autre et puis sur ce que je dirais la solidarité. Je crois qu'aujourd'hui on est dans un monde où on parle beaucoup de solidarité mais en réalité... En tout cas, sur Paris, on est quand même un peu chacun enfermé dans son petit monde et c'est un peu chacun pour soi. Donc pour moi, ce que j'essaye de transmettre au travers le travail, c'est la solidarité les uns envers les autres et permettre aux jeunes, parce que je constate souvent, c'est un manque de confiance en eux. Et de leur permettre de, petit à petit de trouver cette confiance en eux, cette capacité à vouloir créer, à vouloir construire des choses, voilà. Ça, c'est très important pour moi, c'est l'essentiel de ma vie. Bon, parallèlement, je suis comme Luc, je pratique la méditation zen depuis plus de 30 ans, quotidiennement. Pas forcément en groupe, bien sûr, ce qui me donne un certain recul par rapport à beaucoup de choses. Je me suis intéressé, c'est pour ça d'ailleurs que je suis allé en Amérique du Nord, je me suis intéressé aux pratiques chamaniques. Bon, j'ai eu la chance de rencontrer un vieux monsieur, un vieil américain qui nous a enseigné un certain nombre de choses. Bon, ben maintenant ce monsieur ne vient plus et je ne me sens pas à l'aise dans tous ces groupes qui se sont constitués. Parce que je pense que les gens n'ont pas reçu, n'ont pas, ceux qui veulent développer cette forme de spiritualité. Je n'ai pas encore rencontré d'Européens qui ont reçu une forme de transmission profonde. Voilà, donc ça c'est mon point de vue. Hein. Sinon, je m'intéresse à la vie, aux informations.
Au tir à l'arc.
au tir à l'arc, oui. J'ai même passé, bon, les écolos vont peut-être un peu sauter au plafond, j'ai passé mon permis de chasse de tir à l'arc. Bon, j'ai jamais été, de toute façon, on risque pas de faire mal à grand monde, parce que c'est vraiment... Mais c'est une manière d'être dans la nature, d'avoir un esprit d'observation du monde animal, de leur manière de fonctionner. C'est plus ça qui m'intéresse au travers de la chasse à l'arc. Et puis nous, on n'a pas besoin de chasser pour se nourrir aujourd'hui, c'est pas nécessaire, quoi. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est les gens, c'est les rencontres, c'est ce que je fais avec vous en ce moment. C'est la vie, quoi, c'est la vie, tout simplement.
Luc, je te remercie pour ton appréciation de la vie associative au sein de Erdiwa. Pourtant, dans ta vie monastique de moine zen, voire associative dans d'autres structures, tu as dû voir d'autres fonctionnements collectifs et tu n'as jamais retrouvé cette liberté de temps et de respect d'autrui.
Dans toutes les...
Même chez les moines zen.
N'en parlons pas, chez les zen comme partout, il y a toutes les caractéristiques égotiques qui s'affirment très fortement et il y a beaucoup de coups tordus comme partout. Très sincèrement, le seul endroit où les relations humaines m'ont entièrement satisfait, c'est Radio Diwa. Je n'ai pas connu ça ailleurs. Et pour moi, c'est un truc très important et je tiens à préciser, sans vouloir passer de pommade, que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le restaurant de Jean-Michel. Parce que les gens s'y épanouissent. Les rapports qu'il y a entre le personnel, on ne peut pas employer un autre mot, le patron et la clientèle sont des rapports très conviviaux, de véritable fraternité. Et donc, les gens s'y épanouissent, ça ne s'appelle pas la bonne heure pour rien. Et je pense que c'est un des trucs qui peut motiver le plus dans la vie. Moi, je ne vois pas trop ce qu'on peut chercher en dehors de ça, quoi. Le bien vivre ensemble, l'épanouissement, c'est quand même une dimension très très intéressante de l'aventure humaine. Et je la trouve à Erdiwa. Jusqu'à présent, ça fait maintenant quoi, 3-4 ans qu'on s'est lancé dans cette aventure.
2009, ça fait 4 ans.
Ouais, on a eu des crises et toutes les crises ont été l'occasion de progresser. Pour moi, j'ai observé ça. Jamais on est arrivé à une situation de rupture, de clan, de rivalité. Toutes les situations de crise, les quelques-unes que nous avons traversées, nous ont permis de grandir. Donc je souhaite, moi, que ça puisse continuer longtemps.
Nous verrons bien. Advienne que pourra. Et alors Jean-Michel, au propos de Luc sur la convivialité qui régnerait dans ton restaurant, comment tu expliques cette atmosphère qui règne? Comment un patron de restaurant réussit à insuffler un savoir-vivre, un bien-être dans une structure comme ça?
Déjà, il faut se sentir bien soi-même. Hein. Bon, on sait très bien que l'activité économique génère parfois des stress, des tensions. Enfin, je veux dire, pour le chef d'entreprise, parce que je veux dire, rien n'est jamais acquis. Maintenant, je pense que ça tient à ma manière de voir les choses, c'est-à-dire que moi, je pense que on m'a moins aidé dans ma vie à grandir, que la transmission, c'est de faire la même chose. Chacun de mes collaborateurs ou collaboratrices sont différents, donc déjà, faut en tenir compte. On va pas demander et avoir un et surtout leur permettre toujours de pouvoir s'exprimer. J'en ai qui vont dresser la table d'une certaine façon, une autre personne va venir et va vouloir le dresser d'une autre façon. Ça ne me dérange pas. Elles font, c'est elles qui, par exemple, c'est elles qui font le service, c'est elles qui doivent se sentir bien dans leur activité. Donc, aussi, il y a un aspect très important, et on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est la formation. C'est-à-dire que moi, j'ai les deux collaboratrices qui ont ouvert un restaurant, quand elles sont arrivées, elles ne savaient pas cuisiner. Bon, j'ai attendu qu'elles me demandent pour apprendre la cuisine, ça a pris un certain temps. Pour une, ça a pris 2 ans, l'autre 4 ans. Et puis, à partir du moment où elles ont eu envie de le faire, elles l'ont fait, je leur ai donné cette possibilité de pouvoir cuisiner. Et puis voilà, et puis c'est parti comme ça. C'est toujours donné au... Il faut être patient. Il faut être très patient, il faut être à l'écoute, comprendre les personnes. Bon, il ne s'agit pas de mélanger ses problèmes personnels avec l'activité, mais dans l'activité, comme vous, je suppose que vous avez Erdiwa, vous ne mélangez pas tous vos problèmes personnels, vous ne mettez pas sur la table tous les matins vos problèmes. C'est-à-dire, vous faites ensemble sur un projet, vous essayez de le mener le mieux possible et dans l'épanouissement de chacun. Voilà, c'est... Mais disons, il faut de la patience, de l'écoute et puis la confiance. Moi, je suis de nature à faire confiance d'emblée. Hein, voilà. Et parfois, bon, il y a des petits hic, mais c'est pas grave, ça fait partie de... Il faut être patient. Il faut être patient avec les... Et je pense que les jeunes, aujourd'hui, ont plein de choses à dire. Les jeunes, je parle des gens d'entre, je sais pas, 18, 25, 30 ans, ont plein de choses, ont envie de faire plein de choses. Et il faut leur donner cette possibilité de le faire. Si j'avais l'occasion, la possibilité d'avoir plus de monde, je dirais à aider, à former, sachant quand même que je suis quelqu'un de réaliste et qu'il faut que l'entreprise qui existe depuis 14 ans, elle fonctionne aussi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Eh bien, je le ferais, mais bon, voilà. Moi, je suis limité à mon... Et c'est, comme dit Luc, c'est bien qu'à certains endroits, les choses se passent ainsi. Aujourd'hui encore, mes deux anciennes collaboratrices, si elles ont besoin d'un coup de main, je leur donne un coup de main. Il y a des choses qu'elles n'ont pas comprises, mais quand même, elles sont maîtres à bord de leur propre navire, je dirais maintenant. Et je suis très heureux de voir que ça marche en plus.
Alors si je peux me permettre de réagir un tantinet à ce que tu viens de dire, j'ai un proverbe portugais que je cite souvent, bien qu'il soit en français, mais je sais qu'il vient du Portugal. C'est quand un poisson pue, il pue de la tête. Mais si on inverse les termes de la proposition, ça voudrait dire que quand même, ce qui donne la coloration et la teinte d'une structure, c'est quand même la personne qui est un peu à l'origine, enfin qui insuffle du jus. Et d'un autre côté, cette maxime, elle entre en contradiction peut-être avec les cimetières sont remplis de gens indispensables. Alors, il y a un équilibre à trouver entre des gens indispensables qui impriment une énergie et qui impulsent, et puis pourtant, une structure se devrait de ne pas dépendre de quelqu'un. Est-ce que tu vois un peu les deux pôles de mon raisonnement ?
Oui, bon, moi je crois que déjà, l'aventure humaine, c'est une aventure collective. On dépend d'une certaine façon les uns des autres et je dirais qu'il n'y a pas de contradiction pour moi d'avoir une responsabilité dans un lieu, dans une association et avoir en même temps le respect et l'écoute des autres personnes qui gravitent autour d'un projet ou d'une entreprise. Ce n'est pas du tout contradictoire. Je veux dire, moi je ne me sens pas particulièrement chef, patron ou quoi que ce soit. Je dirais que moi j'ai ma place, c'est de faire tourner l'entreprise. Et puis d'aider, bien entendu, de la faire tourner pour qu'elle fonctionne, pour pouvoir la pérenniser. Mais le deuxième objectif, c'est aussi de former, de permettre à des gens plus jeunes de grandir, de s'épanouir, d'avoir confiance en eux et d'avoir la capacité après de prendre eux-mêmes des responsabilités. C'est une transmission en fait. On ne naît pas aujourd'hui avec la connaissance de tout pouvoir faire d'un coup. Mais c'est l'histoire humaine qui est comme ça. Il y a toujours une histoire de transmission avec des responsables à un moment donné qui après se retirent pour laisser les autres responsables, etc. etc.
Oui, alors justement, tu as dit que tu avais 62 ans. Tu as pensé à la transmission de ton entreprise. Est-ce que tu es encore indispensable ou est-ce que tu penses que tu vas réussir à faire une transmission heureuse et que la bonne heure va continuer ?
Disons, la transmission, je vais la faire à mon fils qui s'y intéresse. Oui, moi je pense que les choses vont se passer très bien et que moi je pourrais faire autre chose. Non, je ne me fais pas du tout de soucis parce que 62 ans, j'ai quand même dirigé des entreprises plus grosses. J'étais dirigeant d'une PME de 60 salariés. J'étais directeur régional d'une entreprise où il y avait 80 salariés. Donc j'ai appris au cours des différentes de ma vie à comprendre comment on pouvait bien travailler ensemble. Mais je ne dis pas que c'est toujours facile. Hein. Chaque individu a son côté, sa souffrance qui va exprimer au travers des réactions parfois pas très harmonieuses. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On l'accepte et puis ce qui compte, c'est d'être patient et d'avoir la foi dans ce qu'on fait.
Tu comptes travailler jusqu'à quand ? Et quand tu cesseras de t'occuper de la bonne heure, comptes-tu t'installer définitivement dans le Diwa ?
Disons, c'est mon projet, oui, et puis d'essayer d'y créer quelque chose, non pas un restaurant, mais tout à l'heure je parlais de la possibilité d'amener des produits locaux sur la région parisienne. Peut-être que moi, mon objectif, ce serait aussi dans cet esprit, peut-être de créer un produit, parce que dans le passé, je dirigeais une PME d'alimentaire de transformation. Je ne sais pas, peut-être je vais m'orienter vers un produit qui sera fabriqué dans le Diwa et que je pourrai développer au niveau commercial, à l'échelon national, voire au-delà. Mais pour l'instant, je suis en réflexion, en étude, parce qu'on ne fait pas, on peut pas dire je vais faire ça, puis voilà, quoi, ça ne marche pas comme ça. Il faut quand même maîtriser un certain nombre de facteurs, avoir de la connaissance, voilà. Mais oui, ça fait partie de mon futur.
Et c'est pour quand la retraite alors ?
Je suis déjà en retraite, hein, entre parenthèses. Maintenant, mon salaire, je l'ai beaucoup diminué au restaurant, puisque moi, je vis correctement, mais je ne suis pas là pour faire fortune, c'est pas mon propos. Donc, je suis déjà en retraite, mais j'attends un peu que mon fils, petit à petit, prenne en main, dans un bon esprit, dans l'esprit que moi que j'ai, que la bonne heure reste en quelque sorte la bonne heure. Le restaurant, après maintenant, si lui voulait faire autre chose, pourquoi pas former un collaborateur qui reprendrait après le flambeau, voilà. Parce que je sais que la clientèle est très attachée au lieu. C'est un lieu où ils aiment venir, ils se sentent bien. Donc ça peut être dans les 2-3 ans qui viennent. Hein, voilà.
Je trouve que c'est terrible les personnes en retraite qui ont suffisamment de jus pour apporter leur dynamisme à tel ou tel projet. Je trouve que c'est essentiel maintenant avec l'allongement de la durée de la vie et la durée de la vie efficace. Parce que, enfin, efficace, je veux dire... on est encore en état de donner et de produire des...
Oui.
C'est essentiel que les gens continuent à participer à la vie collective, en fait.
Je crois que le rôle des gens qui en arrivent à une certaine maturité par leur âge, par leur expérience, c'est de transmettre. Hein. On parle beaucoup aujourd'hui dans la société de binôme entre les anciens, les jeunes, dans les formations, dans les entreprises. Je trouve ça très bien. Maintenant, comment ça se passe dans la réalité, j'ai pas étudié le dossier, mais j'irais même, c'est la suite logique de toute société, c'est le fonctionnement logique de toute société humaine, c'est-à-dire que les anciens transmettent et aident les jeunes à aller, à avancer, et puis c'est comme ça, et voilà quoi. Ça me paraît tellement, plutôt que de prendre, je vais pas critiquer les autres, c'est pas mon truc, mais de vivre de manière un peu enfermée sur soi-même, et d'essayer de ne profiter que d'aller dans des pays où c'est moins cher, où on va profiter, entre guillemets, de beaucoup de choses. On peut voyager, mais on peut voyager autrement aussi. Mais je dirais, c'est normal que les anciens, les gens arrivent à une certaine maturité, transmettent. Ça me paraît normal.
Dernière petite question qui m'interpelle. Je suis légèrement moins avancé que toi dans le sentier de la vieillerie. Mais je sais que c'est quand même assez terrorisant. Moi, j'ai entendu parler, par exemple, d'un fait divers qui s'est passé en Grande-Bretagne dans une maison de retraite dans laquelle il n'y avait pas des sévices, mais des mauvais traitements qui étaient faits sur les personnes âgées qui étaient là. Manque d'eau, ils tombaient par terre de leur lit, tout le monde s'en foutait, ils restaient par terre comme ça. Qu'est-ce que la vieillesse, en tant que personne, et même moins zen, t'inspire? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu l'aspires de tes voeux? Est-ce que tu as peur de vieillir, voire de devenir grabataire? Enfin, c'est dur la vieillerie, non?
Je vais voir mon père à sa maison de retraite, il a 88 ans, je passe du temps avec lui, je me dis que non, ça me fait pas peur particulièrement, non, de toute façon, non, ça me fait pas peur. Je crois que si on a une vie dynamique, bien remplie, orienté vers les autres, la vieillesse ne nous fait pas peur. Parce que l'esprit reste le même. C'est le corps qui vieillit. Mais l'esprit reste le même. Je dirais même, ça pose parfois des problèmes quand on voit des jeunes et jolies filles. On a toujours le même esprit coquin. C'est comme ça. Mais c'est le corps qui vieillit. L'esprit, normalement, ne vieillit pas. C'est ce que je ressens.
Il peut se racornir quand même, non?
Il peut se racornir si on tombe dans la routine. La routine, c'est la pire des choses. C'est ce qui nous fait vieillir, ce qui nous prend notre énergie. Et donc, quand on commence à prendre de l'âge, essayer de ne pas tomber dans la routine. Et le contact des jeunes et de la transmission, c'est extraordinaire. Parce qu'on donne, mais on reçoit énormément, ne serait-ce qu'au travers leur énergie. C'est extraordinaire. Je veux dire, c'est dans les deux sens, le bonheur, ce qu'on apporte. Ils nous apportent, on leur apporte. Donc, tant qu'on continue dans cette voie, je veux dire, on meurt, c'est notre lot à tous, mais on peut aller très loin, jusqu'au bout. Je dirais, après, si on tombe gravement malade, de toute façon, il n'y a qu'une chose à faire, c'est accepter son état, hein, c'est accepter, c'est comme ça. Quand on a du cœur, on vieillit pas.
Merci, parce que moi, je commence à dater aussi, ça commence à m'inquiéter.
Une toute petite, je rebondis sur ton se raccornir. On peut voir ça comme ça, comme un raccourcissement, mais il y a un autre aspect, c'est qu'on peut réduire la voilure, c'est-à-dire qu'en vieillissant, on peut être beaucoup plus serein, parce qu'il y a beaucoup de choses inutiles, de préoccupations inutiles, d'inquiétudes, d'idées personnelles, etc., qu'on abandonne. Et finalement, on fonctionne à régime réduit, beaucoup plus réduit, mais on est plus heureux et plus libre aussi, parce qu'on a laissé tomber beaucoup de choses superflues, voire nocives. Donc c'est l'aspect positif de ce raccourcissement.
Et je crois qu'aussi, on a une capacité à développer le sens de l'humour
oui.
Pas mal.
Sur ces paroles qui, personnellement, me rassérènent, Je te remercie Jean-Michel, je te remercie Luc d'être venu.
C'est un plaisir d'être avec vous.
Et puis donc, bon, je te conseille quand même de parler à ton fils d'installer Internet dans la bonne heure et d'installer Erdivois. Tu serais surpris de la qualité de nos programmes.
Mais je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper.
Très bien. Ben merci à tous les deux.
Merci aux auditeurs et à lui.
À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Au revoir. Interview. 1 Terre. Hey, the bird. Interview. L'interview du jour.